Bonjour à tous. Un bénévole de la cathédrale de Nantes est en garde à vue. Il était chargé de fermer l'édifice vendredi soir avant que le feu ne prenne. Nous vous donnerons évidemment tous les derniers éléments de l'enquête. Le procureur appelle à la prudence. Les Nantais s'interrogent. Sortez couverts, entrez masqués. Le masque obligatoire dès demain dans tous les lieux fermés. Invité de ce journal, l'infectiologue Éric Combe, avec qui nous ferons le point sur les risques du moment face à l'épidémie de Covid-19. À Bruxelles, c'est ce soir ou jamais. Les 27 dirigeants européens négocient toujours sur le plan de relance post-Covid. Pour le sauver, Angela Merkel et Emmanuel Macron font bloc, vous les entendrez. Nous irons aussi en Colombie où les habitants de Medellín vivent leur quatrième mois de quarantaine. Et puis en Floride, aux États-Unis, les basketteurs de NBA sont enfermés dans une bulle pour se protéger du virus. Une bulle à 150 millions de dollars pour éviter d'en perdre un milliard, vous le comprendrez.
France Inter.
Comment trois incendies ont pu prendre dans la même cathédrale au même moment? Aucune piste n'est écartée au lendemain de l'incendie dans la cathédrale de Nantes. Mais très tôt hier, le procureur parlait tout de même d'un possible acte volontaire. Jean-Philippe Dogniaux, justement, un homme est en garde à vue depuis hier.
Oui, depuis 13h30 hier exactement, on ne sait pas encore si cette garde à vue dont la première phase arrive à son terme va être prolongée. Les enquêteurs ont dès le début été guidés par deux éléments déterminants, l'absence d'effraction et la présence de trois départs de feu bien distants les uns des autres, les deux premiers dans chacun des bas-côtés de la nef, dont un à proximité du compteur électrique et le troisième au niveau de l'orgue à 30 mètres au-dessus du sol. La police technique et scientifique n'a pas encore pu atteindre la tribune en raison des risques d'effondrement, mais elle devrait pouvoir y accéder dans l'après-midi. L'homme de 39 ans en garde à vue est un bénévole du diocèse. C'est lui qui a procédé à la fermeture de la cathédrale vendredi soir à 19h en prévenant les fidèles par haut-parleur, puis en verrouillant une à une les nombreuses portes d'accès. Plus tard dans la soirée, l'organiste est venu répéter, seul, avec sa propre clé. Mais il y a ensuite quelques incohérences dans l'emploi du temps du bénévole au cours de la nuit, pour lesquelles la police judiciaire a engagé des vérifications. En tout cas, il faut se garder de toute conclusion hâtive et prématurée, conseille à ce stade le procureur de Nantes, Pierre Sénès.
Merci Jean-Philippe Dogniaux. Voilà donc pour les questions que se posent encore les enquêteurs. Les Nantais ont évidemment les mêmes en tête, et particulièrement les fidèles qui étaient ce matin à la messe du dimanche. Notre envoyé spécial Léo Técher les a rencontrés à 5 minutes à pied de la cathédrale dans une autre paroisse.
À la basilique Saint-Nicolas, plus remplie que d'habitude avec les fidèles de la cathédrale et leur recteur, le père Hubert Champenois.
Entends notre prière au cœur d'une grande détresse car nous sommes privés de la cathédrale.
Grande émotion pour les Nantais.
En tant que chrétien, c'est quand même dur.
Et la surprise d'apprendre qu'un homme est en garde à vue.
Un bénévole de la cathédrale?
Celui qui était chargé de fermer la cathédrale.
Mais on est sûr, quoi?
Les enquêteurs vérifient.
Oui. C'est étonnant.
On n'a rien à dire, si vous voulez.
Le président de l'association des amis de la cathédrale, Jean-François Henry, et le responsable bénévole de la sonorisation, Florent Piollet, connaissent cet homme âgé de 39 ans.
Une garde à vue, c'est une enquête. Bon. C'est à la justice de savoir ce qui s'est passé.
Personne, voilà. Hein.
Confiance en la justice et confiance donc en ce bénévole, dit le recteur de la cathédrale.
Que je le connais bien, mais je fais pas une enquête auprès de lui. C'est un homme originaire du Rwanda qui est à Nantes depuis plusieurs années. Les personnes qui sont au service de la cathédrale, c'est des personnes avec lesquelles on crée des liens au long des mois ou des années, avec lesquelles nous sommes en pleine confiance.
D'ailleurs, le procureur appelle à la plus grande prudence quant à cette garde à vue. Pour lui, il est prématuré d'en tirer des conclusions.
Un reportage de Léo Técher depuis Nantes pour France Inter. Les masques obligatoires dès demain dans tous les lieux fermés. Le ministre de la Santé a déjà donné quelques exemples. Commerce, marché couvert, banque, en bref, tous les établissements qui reçoivent du public. Bonjour Éric Combe.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue à Paris à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le gouvernement avait un temps évoqué le 1er août pour le port du masque obligatoire en France. Était-ce vraiment nécessaire d'avancer la date?
Écoutez, je pense que c'est une bonne nouvelle d'avoir avancé la date. Ce qu'on ne comprenait pas, c'était au contraire pourquoi il fallait attendre le 1er août pour imposer cette mesure qui relève du bon sens et qui d'ailleurs était en vigueur au moment où on a déconfiné.
Une mesure nécessaire? Les signes, selon vous, sont inquiétants en ce moment sur le territoire?
Écoutez, oui, je crois que le constat est reste unanime parmi la plupart d'entre nous, comme quoi on a plusieurs signaux qui nous alertent, avec plusieurs clignotants qui s'allument en rouge au fur et à mesure que le temps s'écoule et dans les différentes régions de France.
Alors quels sont ces signaux justement ? Est-ce que ce sont des clusters dont on parle dans certaines régions en Mayenne ou la Catalogne et Barcelone qui se reconfinent de l'autre côté de la frontière ?
Alors, c'est clair que ce qui se passe à Barcelone doit nous inciter à la modestie et à la prudence, parce que sinon on y prend garde, il risque de nous arriver exactement la même chose. Quant aux clignotants qui s'allument chez nous, le premier des clignotants, c'est quand même le nombre de consultations en médecine générale pour Covid, et les médecins généralistes nous alertent depuis quelques jours pour nous dire qu'ils voient de plus en plus de Covid, ce qui correspond à ce qu'on voit aussi dans nos services d'urgence, au niveau des appels des SAMU, et ainsi que dans les services d'hospitalisation, voire même en réanimation, puisque des malades commencent à rentrer en réanimation avec le Covid.
Alors je parlais de la Mayenne tout à l'heure, l'agence régionale de santé sur place a visiblement fermé plusieurs centres le mois dernier. Des médecins généralistes s'en sont offusqués. A-t-on, selon vous, crié victoire trop vite en imaginant qu'on était tiré d'affaire jusqu'à l'automne ?
Je crois qu'il y a eu effectivement un relâchement un peu prématuré de la part de nos autorités qui n'ont pas forcément montré le bon exemple. Je fais allusion à la soirée électorale du deuxième tour où on ne peut pas dire que les mesures barrières aient été respectées. Je crois qu'on n'a pas assez donné le bon exemple au niveau du port du masque et du respect des mesures barrières. Et il faut absolument se ressaisir. Il fallait en fait continuer sur la lancée de ce qu'on faisait au moment où on a déconfiné.
À propos des précautions justement, Éric Combes, je vous propose d'écouter le maire de Matincourt, une petite commune des Vosges, où 34 Covid-19 ont été recensés, détectés cette semaine dans une maison d'accueil spécialisée. Le maire a décidé de reconfiner tous les résidents. Il s'appelle Joris Suriot.
Tous les résidents ont été confinés dans leur chambre. Il y a 40 résidents au sein de cette structure. Le personnel qui a été infecté ne travaille plus. Il est isolé chez lui. Sur Matincourt, on a un autre établissement de santé. C'est l'hôpital du Val-du-Madon qui est une maison de retraite. Et par précaution, la direction en lien avec les autorités de santé ont décidé de suspendre les visites des familles. Il faut quand même rester très vigilant face à cela.
Voilà l'exemple d'un reconfinement dans un village de 1000 habitants. Éric Combes, c'est anecdotique ou c'est un exemple à suivre ?
Non, c'est pas anecdotique, c'est vraiment très bien d'avoir fait ça, c'est un très bon réflexe épidémiologique. Et malheureusement, je crois qu'il y a d'autres régions de France, j'ai entendu dire aussi qu'en Mayenne, c'était un peu la même chose dans certaines EHPAD, donc il faut être très vigilant, effectivement, pour protéger nos anciens.
Réagir vite, on l'a bien compris. Merci beaucoup Éric Combes d'avoir accepté notre invitation ce midi. Vous êtes infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Travailler à l'instinct proche du citoyen, voilà la promesse d'Éric Dupond-Moretti ce matin dans les colonnes du journal du dimanche. Le ministre de la Justice donne ses priorités, la lutte contre les violences conjugales notamment, la lutte aussi contre le terrorisme. Le ministre se dit favorable au port du bracelet électronique pour les personnes condamnées une fois leur peine purgée. Les 27 dirigeants européens à Bruxelles planchent toujours encore sur le plan de relance après la crise économique, la crise sanitaire du nouveau coronavirus. 750 milliards d'euros à financer. Cela fait 3 jours que cela dure à Bruxelles, 3 jours que ça coince. Alors face aux réticences des pays dits frugaux, face aux frileux, le duo franco-allemand communique aujourd'hui. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont affiché une unité sans faille, Louise Baudet.
Dès les premières images, ils sont apparus côte à côte, mise en scène soignée d'une parfaite entente dans la tourmente, participant en duo aux principaux conciliabules, claquant la porte de concert la nuit dernière face à l'intraitable néerlandais Mark Rutte. Angela Merkel et Emmanuel Macron font bloc pour sauver le plan de relance qu'ils ont préfiguré le 18 mai dernier. Le sauver, mais pas à n'importe quel prix.
Il nous faut trouver les bons compromis dans les prochaines heures. Je pense que c'est encore possible. Mais ces compromis, je le dis très clairement, ne se feront pas au prix de l'ambition européenne. Parce que nos pays en ont besoin et l'unité de l'Europe en a besoin.
Un compromis est encore possible, affirme le président français. Voilà pour le verre à moitié plein. Angela Merkel choisit le verre à moitié vide. Elle n'exclut pas un échec.
Y aura-t-il une solution aujourd'hui ? Je ne peux le dire. Je reste ouverte à la discussion. Mais il est aussi possible qu'il n'y ait pas d'accord ce soir.
In fine, la même incertitude et la même dramatisation. Les deux dirigeants n'entendent pas faire de nouvelles concessions. Mais ils savent qu'un échec serait terrible pour l'image de l'Union européenne et qu'ils en seraient tenus pour co-responsables. Ils font donc monter la pression. L'ultimatum lancé la nuit dernière au camp des Frugaux n'a pas fonctionné. Reste une journée et peut-être une nuit pour trouver les voies du compromis.
L'accord est donc loin d'être trouvé encore à Bruxelles, d'autant que le Hongrois Viktor Orban accuse aujourd'hui les Pays-Bas de vouloir punir la Hongrie en demandant le respect de l'état de droit. Pendant ce temps, les pays les plus industrialisés parlaient également économie. Les ministres des Finances et les chefs des banques centrales du G20 pourraient suspendre un peu plus longtemps la dette des pays les plus pauvres. Le moratoire dure pour le moment jusqu'en 2021. Justement, arrêtons-nous sur un pays émergent, durement touché par la pandémie de Covid-19, la Colombie, qui se reconfine après avoir franchi la barre des 6000 morts. Dans la deuxième plus grande ville du pays, par exemple Medellín, plus de 2 millions d'habitants, les rues sont de nouveau vides. C'est un reportage de notre correspondante Najat Benrabah.
Nous déclarons la ville de Medellín en état de vigilance rouge à cause du Covid-19, c'est-à-dire que nous entrons dans la phase la plus dangereuse du virus.
Daniel Quintero, le maire de Medellín, annonce donc la fermeture complète du centre-ville, le couvre-feu, l'ouverture d'un nouvel hôpital dédié au Covid et seulement 4 jours de travail par semaine du lundi au jeudi. Tous les week-ends, c'est le confinement à 100% jusqu'à la fin du mois de juillet. Dans le nord de la ville, Maria Regina Hernandez, 47 ans, qui vit avec son fils, sa femme et son petit-fils dans un quartier populaire, commence à perdre patience.
On est stressé car on doit payer le loyer. Et si on paye le loyer, on n'a plus d'argent pour les courses. Avant, je travaillais dans les maisons comme femme de ménage durant toute la semaine. Cette semaine, je n'ai travaillé qu'un jour. Je trouve qu'ils exagèrent avec cette pandémie.
À Medellín, les habitants doivent respecter un couvre-feu jusqu'à lundi. Les commerces sont fermés et il est interdit de vendre de l'alcool. Les Colombiens pourront sortir uniquement une fois par semaine selon leur numéro de carte d'identité pour faire les courses ou aller à la banque. Najat Benrabah, Medellín, France Inter.
C'est aussi une forme de confinement. Pour terminer sa saison, la NBA se met sous une bulle. Le championnat de basket américain s'est en effet confiné à Disneyland, en Floride, à Orlando. 22 délégations, des hôtels et des terrains réquisitionnés. Les précautions sont immenses, à l'image du risque pour le secteur. Visite guidée avec Louis de Bergevin.
Pour entrer dans la bulle, il faut subir 2 tests à 24 heures d'intervalle. Ensuite, si on n'est pas malade, c'est masque obligatoire et distribution de gel, évidemment. Mais le protocole ne s'arrête pas là, explique l'arrière-français d'Orlando, Evan Fournier.
Donc on a des tests tous les jours. Aussi, dès qu'on se réveille, on est censé prendre sa température avec un thermomètre qui nous est donné, le rentrer dans une application qui, en fonction de nos résultats, quand on scanne notre bracelet à l'entrée, si tout va bien, la couleur est verte. Si ça va pas, la couleur est rouge et voilà, c'est simple que ça.
À l'extérieur, les cas de coronavirus explosent. La Floride est considérée comme le principal foyer de Covid-19 en ce moment aux États-Unis. Mais Georges Eddy, consultant basket en France pour Canal+, l'explique. Les délégations se sentent complètement en sécurité.
Comme dit Greg Popovich, le coach de San Antonio qui a 72 ans, il pense qu'il n'y a pas d'endroit plus en sécurité que dans cette bulle.
Et pour en faire une zone hermétique, ça a coûté 150 millions de dollars, car l'enjeu n'est pas que sportif.
Si les joueurs arrêtaient la saison aujourd'hui, ils perdraient 1 milliard de dollars en salaire cumulé. C'est du sport business, c'est une question économique. Mais évidemment, le souhait de tout le monde, c'est qu'il y a un minimum de joueurs infectés et qu'on peut aller jusqu'au bout des playoffs.
Et si tout se passe bien, le dernier match de la finale se jouera au plus tard le 13 octobre prochain.
Là, c'est une course qui se joue en plein air et que ça fait du bien. Il y a quelques minutes, le départ de la Dream Cup a été donné à Cherbourg, dans le Cotentin. C'est une course de voile avec une centaine de voiliers multiclasses, toutes catégories confondues. Une compétition qui sonne comme une rentrée des classes pour le skipper Thomas Coville.
On l'a choisie parce que elle s'est annoncée à nous assez tôt en saison, alors qu'on était encore en pleine crise du Covid-19. C'était pour nous aussi un moyen effectivement de sortir avec le bateau et de se confronter avec les autres ultimes. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit solidaire. D'être sur l'eau, c'est quand même la chose la plus importante et ça reste ce qui nous bouge tous. Et il n'y a pas tant que ça de course effectivement qui relie toutes ces classes. Là, il va y avoir des multicoques de tous les sens, il va y avoir une grosse classe de Figaro, il va y avoir des amateurs, des professionnels. C'est parfait. Je trouve que on n'aurait pas été là, on aurait fait une erreur.
Thomas Coville au micro d'Anthony Rimbaud de France Bleu Cotentin. Thomas Coville qui vogue donc vers la Trinité-sur-Mer jusqu'à mardi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Parce que votre activité n'attend pas. Les services en ligne Euromaster sont accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Quel temps alors pour les skippers aujourd'hui, Jean-Michel Golinski ?
Moins beau et moins chaud qu'ailleurs au voisinage de la Manche, où le ciel chargé s'accompagne d'intermèdes faiblement pluvieux et de températures de 18 à 20 degrés au meilleur de l'après-midi en bord de mer. Plus bas sous un ciel variable, il fera 24 à 26 degrés sur le nord et le Pas-de-Calais, 28 dans l'intérieur de la Bretagne, de la Normandie et de la Picardie. En progressant vers le sud, là c'est le bleu qui va largement s'imposer, avec 30 degrés sur les Pays de la Loire et le Grand Est, jusqu'à 32 sur la région parisienne en Rhône-Alpes, le Poitou-Charentes et le centre Val-de-Loire, 33 en basse vallée du Rhône et jusqu'à 35 degrés dans les plaines du sud-ouest, avec un faible risque d'ondées cet après-midi pour les massifs du sud. Demain, petite baisse des températures au nord de la Loire, mais maintien de la chaleur au sud, avec un temps plutôt ensoleillé dans l'ensemble, mais assez variable le matin dans la moitié nord et parfois orageux l'après-midi sur l'est des Pyrénées.